6h-8h.
Matin Première.
Pierre-Yves Meugens.
On reparle du CETA. Des assemblées nationales et régionales d'Europe doivent encore ratifier ce CETA pour de bon. 38 assemblées en tout. Hier en France, les députés ont ratifié l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ce CETA. Chez nous, on se souvient qu'en 2016, la Wallonie s'était opposée au traité. Alors aujourd'hui, cet accord commercial, même s'il n'a pas été ratifié encore par toutes les assemblées nationales et régionales européennes, il est appliqué de manière provisoire depuis septembre 2017. On va en parler avec Maria-Rena. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne à la Commission au commerce international du groupe socialiste et démocrate, donc au niveau européen. Alors, il y a 2 ans, vous avez dit que voter pour le CETA, c'était acheter un peu un chat dans un sac. 2 ans après, vous tenez encore les mêmes paroles, ou ça a évolué ?
Non, évidemment, je dirais même que c'est pire dans la mesure qu'après le CETA, il y a aujourd'hui la négociation sur le Mercosur, c'est-à-dire entre l'Europe et l'Amérique latine, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, exactement sur le même modèle. Et on nous dit, parce que vous avez accepté le CETA, il va falloir accepter les autres. Et donc, c'est vraiment une machine, c'est un rouleau compresseur aujourd'hui qui est une course à la mondialisation de la part de l'Europe, alors même que tous les indicateurs nous montrent, il y a 3500 chercheurs économistes américains qui disent que la décarbonisation de l'économie passera par une révision du libre-échange et par une révision de la mondialisation. Et en même temps, on est dans cette course effrénée pour la mondialisation au niveau européen. Et donc, il y a un double langage. À la fois, on veut faire du changement climatique notre fer de lance au niveau européen, c'est-à-dire nous devons prendre les mesures et donc imposer des mesures au niveau des économies européennes. Et en même temps, on importe un maximum de biens qui sont produits ailleurs dans des standards différents.
C'est ce côté écologique qui vous ennuie, parce qu'à l'époque, on avait dit que finalement les exportations, etc., ne se porteraient pas forcément mieux. Or, les chiffres montrent quand même le contraire aujourd'hui. C'est ce côté uniquement écologique qui pose problème, de près vous ?
Alors, pas que le côté écologique. Il y a bien entendu le côté écologique. Vous savez, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui disent « Mais quel est le lien entre l'écologie et les accords commerciaux ?» Il suffit de dire que quand on produit une tonne de bœuf au Canada pour l'exporter en Europe et qu'on produit une tonne de bœuf européen pour l'exporter au Japon, eh bien, ça a un coût CO2, c'est un coût d'émission CO2, parce qu'il y a le trajet, bien entendu. Mais il y a aussi toute la question des normes. Alors certains disent, mais on va garder les mêmes normes. Eh bien non, dans la mesure où dans ces accords commerciaux, la question du principe de précaution n'est pas garantie. C'est-à-dire, on dit oui, l'Europe est basée sur le principe de précaution, mais on ne le scelle pas dans les accords. Or, aujourd'hui, le Canada attaque l'Europe parce qu'il y a le principe de précaution et il l'attaque au niveau de l'OMC, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, on affaiblit le principe de précaution dans le cadre de ces accords commerciaux. Et la dernière chose, c'est toute la question des comités de régulation. Donc, c'est-à-dire que entre des entreprises canadiennes et des entreprises européennes, eh bien, on va discuter de ce qu'il est bon de faire. Et par exemple, la première réunion qui a eu lieu après la mise en œuvre du CETA provisoire, ça a été une réunion qui parlait de la question du glyphosate. Aujourd'hui, des entreprises multinationales, je ne jette pas la pierre aux entreprises canadiennes, ce sont les mêmes au Canada qu'en Europe, disent finalement, est-ce que le glyphosate et les mesures que vous êtes prêts à prendre en Europe sont appropriées par rapport aux mesures commerciales. Et là, c'est vraiment une prise en otage démocratique, c'est-à-dire ce que nous voulons faire d'un point de vue démocratique dans nos assemblées nous sera interdit parce qu'on aura signé ces accords.
Alors justement, ça fait quand même 2 ans que provisoirement ce traité fonctionne, avec certaines clauses évidemment qui doivent encore être adaptées, être mises en œuvre. Mais il n'y a vraiment rien de positif qui est sorti d'après vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation de désarroi décrite par notamment votre parti ou certains au niveau du Parlement européen? 2 ans après, c'est quand même pas non plus, on n'est pas en table rase avec une économie ravagée par effectivement ce CETA comme ça avait été annoncé par certains.
Le gros problème, c'est que ce ne sera pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, on le sait, on le sait très très bien. Et d'ailleurs, on parle du Canada comme étant un pays ami dans le cadre des standards et dans le cadre des normes. Donc, bien entendu, ce ne sera pas quelque chose qui sera fait du jour au lendemain. Mais c'est un processus qui retire de la démocratie, donne du pouvoir aux multinationales et ne rentre pas dans la logique qui est la logique de réduction du CO2. Et donc, ces 3 défis doivent être pris dans les accords commerciaux. Je ne suis pas contre les accords commerciaux, que du contraire, il faut se servir des accords commerciaux pour faire du commerce un commerce qui est plus respectueux et plus utilisé pour les enjeux que nous devons rencontrer aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez... Moi, je me souviendrai toujours de la première lettre que j'ai reçue quand j'étais en commission commerce international. C'était à l'époque une lettre de Caterpillar qui m'écrivait, qui me sommait d'accepter l'accord avec les États-Unis. Trois semaines plus tard, Caterpillar mettait la clé sous le paillasson. C'est pour vous dire le lobby de ces entreprises multinationales pour nous empêcher de faire notre travail au niveau européen, qui est le respect des standards.
Dans ce CETA, il y avait notamment aussi la résolution de litiges qui posait problème à de nombreux pourfendeurs de l'accord. C'est ces fameuses cours d'arbitrage qui peuvent être saisies justement, notamment par des sociétés, des multinationales, si jamais il y a un différend qui les oppose à un État, notamment en termes de régulation, etc. Pourtant, la Cour de justice de l'Union européenne a validé en avril ce mécanisme.
Tout
Quel
à fait.
Quel est votre sentiment là-dessus?
Alors, le problème du mécanisme d'arbitrage, ce n'est pas qu'il soit validé. Alors, c'est vrai que nous, notre objectif était de dire, mais pourquoi est-ce que l'Europe devrait accepter un mécanisme externe de justice pour des investisseurs alors que nous avons la Cour européenne? La Cour européenne a dit, nous avons des mécanismes d'arbitrage qui existent et donc il n'y a pas de problème. La question que nous posons, c'est pourquoi est-ce qu'avec des pays dits « amis », comme le Canada, où il y a des justices qui sont tout à fait impartiales, c'est-à-dire qui peuvent juger correctement la question des investissements, comme nous les avons en Europe. Pourquoi faut-il des cours privés d'arbitrage pour juger la question des investissements? Pourquoi ne peut-on pas alors avoir des cours externes aussi pour juger la question du non-respect de l'environnement ou du non-respect des droits sociaux par un certain nombre de multinationales? Et donc ce que nous disons, c'est qu'il y a un privilège qui est donné à l'argent alors que on ne traite pas de la même manière la question des droits sociaux et des droits environnementaux. Vous savez, dans l'accord CETA que j'ai lu, c'est 1600 pages. Il y a 7 pages, 7, sur la question des droits sociaux et des droits environnementaux. Et encore, ces 7 pages ne sont pas contraignantes. Il n'y a pas de mécanisme de sanction. Par contre, sur tous les autres mécanismes, les mécanismes de sanction sont forts, c'est-à-dire on peut effectivement traîner en justice ou les États ou les investisseurs.
Marie-Hélène, un mot peut-être sur toute autre chose maintenant. Boris Johnson, hier, qui va donc prendre la tête du gouvernement britannique. Il donne 100 et un jour, enfin, il se donne 100 et un jour pour pousser à fond donc ce Brexit, le réaliser selon ses dires. Vous y croyez, 100 et un jour, c'est possible? Alors, sans modifier forcément l'accord qui était tombé avec les Européens.
Vous savez, Boris Johnson nous a beaucoup habitués soit à des coups de pub médiatique ou à des mensonges. Et donc aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau européen, le problème il est en Grande-Bretagne. Il devra aujourd'hui...
La communication va être difficile entre l'Europe et la Grande-Bretagne?
Ça va dépendre de ce qu'il va mettre sur la table. Aujourd'hui, les Européens ont dit on a négocié et ce qui est négocié est là sur la table. Il y aura sans doute des marges qui pourront être discutées avec la Grande-Bretagne, mais ce ne sera pas une révision de l'accord. Et donc Boris Johnson devra lui convaincre son Parlement, ce qui n'est pas gagné. S'il a gagné à 2/3 les conservateurs, il n'a pas la majorité, il n'aura pas la majorité dans son Parlement s'il va, je dirais, dur par rapport à cet accord. Et donc c'est lui qui devra convaincre son Parlement et ce ne sera pas facile.
Merci beaucoup Marie-Hélène d'avoir été avec nous, députée européenne et à la Commission Commerce International, pour aborder notamment ce CETA. 7h20 dans Matin Première. On va voir ce qui se passe sur la route avec Antoine Binet.